France Inter, le 7-9.
Il est 7h48, Léa Salamé. Votre invitée ce matin est tête de liste France Insoumise aux élections européennes.
Bonjour à vous, Manon Aubry.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin. Vous avez 29 ans, vous étiez jusqu'ici porte-parole de l'ONG Oxfam avant de dire oui à Jean-Luc Mélenchon. Oui pour être tête de liste aux européennes, oui pour prendre des coups, oui pour en rendre, oui pour devoir répondre à toutes les questions sur tous les sujets et pas seulement ceux dont vous avez l'expertise. Pourquoi avoir dit oui? Est-ce que vous avez hésité? Est-ce que c'est de l'inconscience, de la témérité? C'est quoi?
J'ai hésité, c'est vrai. C'est pas une décision facile à prendre. J'étais une citoyenne, comme vous et moi, et j'observais la vie politique depuis mon rôle associatif. Et j'ai dit oui parce que pour moi, face à l'urgence du changement climatique, face à l'urgence de la montée des inégalités, il y avait la nécessité de donner un débouché politique aux espoirs, aux convictions que je portais au quotidien en tant qu'actrice associative. Dans le secteur associatif, combien de communiqués de presse avons-nous fait pour alerter du changement climatique? Combien de communiqué de presse avons-nous fait pour alerter de la montée des inégalités? Et donc, mon objectif à travers ce oui, c'est de demain transcrire politiquement les propositions que je portais, mais que d'autres portent aussi dans le monde associatif pour aller dans le sens du progrès social en Europe.
Alors, pourquoi oui à Jean-Luc Mélenchon? Parce que vous avez été approché notamment par Benoît Hamon. Pourquoi lui avoir préféré Jean-Luc Mélenchon?
Alors, il y a deux raisons principales. La première chose, c'est que d'abord, je vais vous dire, je n'étais pas une militante de la France insoumise de la première heure. J'ai été approchée par...
Mais vous avez voté Mélenchon... Enfin, vous n'êtes pas obligée d'ailleurs de le dire, mais...
Oui, mais la vraie question, c'est que je n'étais pas une militante de la France insoumise. Et donc, quand la France insoumise m'a approchée, je me suis d'abord posé la première question indispensable, qui est celle du fond et du programme. J'ai relu l'ensemble de l'avenir en commun, du programme de Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle, relu les livrets thématiques, et en réalité, la France insoumise a produit intellectuellement, à renouveler le champ des propositions pour le progrès social, la justice climatique, la lutte contre les inégalités.
Plus que Benoît Hamon.
Plus que Benoît Hamon, le programme était plus complet. Et puis la deuxième question que je me suis posée, c'est est-ce que je me sens à l'aise aujourd'hui dans un parti politique ou un mouvement, un jeune mouvement qui est la France Insoumise? Et quand on regarde de près, la France Insoumise a aussi renouvelé les pratiques politiques, réinvesti les quartiers populaires, fait de la démocratie participative au niveau local. J'ai assisté à ma première convention de la France Insoumise il y a une semaine et j'étais surprise de ce travail en petits groupes, en ruches, participatif. Et j'ai été convaincue par la démarche de la France Insoumise, qui ne se veut pas s'opposer aux autres mouvements, mais qui aujourd'hui, pour moi, est la plus porteuse d'espoir.
Alors, avant de nous dire ce que vous allez défendre pour les Européennes, un mot sur la crise des Gilets jaunes. L'acte 5 a rassemblé moins de monde samedi dernier après les annonces d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous dites aujourd'hui qu'il faut passer à autre chose, ou vous espérez un acte 6, un acte 7, un acte 10?
Alors, ce n'est pas à moi, en plus, toute nouvelle actrice
politique.
Oui, mais
il va falloir répondre là, aux questions. Hein.
Bien
c'est
sûr.
Ça la grande
non,
différence.
Non, mais ce n'est pas à moi de donner des consignes aux Gilets jaunes. Qui suis-je, Manon Aubry, pour dire est-ce que vous devez aller vers un acte 7?
Non,
par contre,
sûr.
Ce dont je suis convaincue, c'est qu'aujourd'hui, les attentes des Gilets jaunes ne sont pas remplies. Quand les Gilets jaunes demandent le rétablissement de l'ISF, l'impôt sur la fortune, le gouvernement n'y répond pas. Quand les Gilets jaunes demandent le référendum populaire, on en a parlé d'initiative citoyenne, le gouvernement ouvre une porte puis ferme une autre. Quand les Gilets jaunes demandent une hausse du SMIC, on a en réalité une hausse de la prime d'activité qui concerne qu'un tout petit nombre de personnes. Donc je pense aujourd'hui que le cri du cœur, l'appel à la dignité des Gilets jaunes n'a pas été entendu et j'espère qu'il pourra être entendu dans les prochains mois.
Qu'est-ce que vous pensez des Gilets jaunes qui veulent constituer une liste aux européennes?
Mais c'est très bien. Je pense qu'aujourd'hui le débat politique qui a été amené par les Gilets jaunes est salutaire. Quand on a des gens qui, dans les autour des ronds-points, au péage, parlent d'impôts sur la fortune. Moi qui ai travaillé pendant longtemps sur les questions de justice fiscale, écrit des rapports sur le sujet pour alerter l'impact sur les inégalités, en tant que citoyenne, je m'en félicite. Faut pas avoir peur de la démocratie.
Qu'est-ce que vous pensez du Parti communiste qui dit vouloir des gilets jaunes sur sa liste?
Je pense que en réalité, des gilets jaunes, il y en a déjà sur la liste de la France Insoumise. C'est la seule liste pour le moment qui est constituée avec 79 personnes, des actrices de terrain, des militants associatifs, des militants syndicaux qui étaient sur les ronds-points. Après, on n'a pas la prétention de représenter l'ensemble des gilets jaunes, ce serait présomptueux de notre part. Et si des gilets jaunes veulent s'impliquer en politique, que ce soit au travers des mouvements déjà constitués ou à travers d'autres mouvements, je pense que c'est salutaire pour la démocratie.
Alexis Corbière a déclaré il y a quelques jours, bien sûr qu'il y a une course de vitesse avec l'extrême droite pour capter cette colère populaire.
Je pense qu'en effet, il y a une colère populaire aujourd'hui.
Est-ce que vous pensez, la question, c'est est-ce que vous pensez qu'il y a une course de vitesse avec l'extrême droite?
Je pense qu'il n'y a pas une course avec l'extrême droite. Quand on regarde aujourd'hui, qu'est-ce que propose l'extrême droite? Il faut le rappeler, l'extrême droite ne propose pas l'augmentation du SMIC. Marine Le Pen l'avait répété à plusieurs reprises, elle était contre l'augmentation du SMIC. Quelle est la demande des Gilets jaunes d'augmenter le SMIC? C'est un des exemples qui montre aujourd'hui la différence. Il ne faut pas se faire arnaquer par le Rassemblement national.
Alors vous dites ça et en même temps, la seule qui semble en profiter, tout sondage confondu, c'est elle, c'est Marine Le Pen, c'est pas vous, c'est pas Jean-Luc Mélenchon.
Alors déjà, il n'y a pas eu de scrutin politique encore.
Non, bien sûr, c'est pour l'instant que des sondages.
C'est que des sondages.
Ça vaut une tendance.
Je pense que ce que j'entendais aussi, et j'écoutais l'interview de Florence Aubenas hier, qui parlait aussi d'un cri d'appel à exister. C'est aussi pour ça qu'ils mettent des gilets jaunes. Je pense qu'il y a une défiance de la part des gilets jaunes vis-à-vis du politique que je peux entendre, que je peux comprendre. Moi, j'étais une citoyenne lambda jusqu'à aujourd'hui, et je pense que la responsabilité des mouvements politiques, c'est de se remettre en question et d'incarner les aspirations et les attentes populaires. Et ce sera le sens aussi de la campagne que l'on va mener en allant partout en France pour écouter les attentes.
Manon Aubry, à la question « Êtes-vous de gauche ?», le député insoumis Bastien Lachaud avait répondu à ce micro il y a quelques semaines. « La gauche, ça ne veut plus dire grand-chose. Je ne pense pas que ce soit un repère qui puisse convaincre. » Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ?
Je suis complètement d'accord. Et je vais même aller plus loin parce que je sais qu'on va me la poser la question. Est-ce que je suis de gauche ? Oui. Est-ce que la gauche veut dire quelque chose pour des millions de gens en France ? Non. Et c'est bien malheureux. Et c'est face au renoncement aussi, y compris du quinquennat Hollande, qui a détruit le mot « gauche ». Et donc, aujourd'hui, parler de la gauche ne veut plus rien dire pour grand monde parce que les repères politiques sont perdus. Moi, j'ai envie de parler de transition écologique, j'ai envie de parler de lutte contre les inégalités.
Et vous voulez parler au peuple et pas à la gauche, comme
j'ai envie de parler
Mélenchon.
À l'ensemble de la population, oui.
Vous employez le terme de peuple ?
Oui, j'ai aucun problème à entendre et à parler de la question de peuple, parce que je pense qu'aujourd'hui, les aspirations populaires qui s'expriment, notamment à travers le mouvement des Gilets jaunes, doivent être entendus. Et quand hier j'ai entendu Stanislas Guérini avoir peur du référendum d'initiative populaire parce que c'est le risque du rétablissement de la peine de mort selon lui, c'est que aujourd'hui le gouvernement, la majorité, a peur du peuple. Il ne faut pas avoir peur du peuple et ne pas gouverner contre lui et incarner les aspirations du peuple. C'est ce qu'on va en tout cas essayer de faire dans cette campagne.
Alors quelle sera la position que vous défendrez à la France Insoumise sur l'Europe ? Jean-Luc Mélenchon, pendant la campagne de 2017, on s'en souvient, parler du plan A, et si le plan A ne marche pas, c'est le plan B, et le plan B, c'est quitter l'Union européenne. Il disait lui-même, l'Union européenne, on la change ou on la quitte. Vous le reprenez, ce slogan ?
Alors, le programme, je vous invite tous à voir le programme de la France Insoumise pour les élections européennes en ligne, puisqu'on est le premier mouvement politique à l'avoir mis en ligne. Qu'est-ce que le plan A et le plan B de manière très simple ? L'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui n'a pas tenu ses promesses de progrès social. On se souvient de Jacques Delors avec, en même temps que le traité de Maastricht qui parlait d'Europe sociale, on nous a volé l'idée d'Europe. Donc le plan A, c'est renégocier tous ensemble et tenir les promesses de l'Europe, de cette Europe sociale qui lutte contre le dumping fiscal, qui lutte contre l'évasion fiscale notamment, et c'est l'Europe du progrès. Si ça ne marche pas et qu'on n'arrive pas à renégocier tous ensemble, le plan B, c'est d'avancer à plusieurs, à tous ce qu'ils voudraient, notamment avec nos alliés de Podemos en Espagne, le bloc.
Ça veut dire sortir de l'Union européenne, pardon. Pour être très clair, parce qu'on va vous la poser. Vous le savez. Est-ce que ça veut dire le Frexit, on sort de l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui ?
Ça veut dire instaurer un rapport de force pour renégocier les traités. Mais on sait très bien que l'Union européenne ne se fera pas sans la France. Et donc on va dissiper toute inquiétude là. Demain, nous, ce qu'on veut, c'est instaurer un rapport de force pour renégocier les traités. Idéalement à 27, puisqu'on ne sommes plus que 27 dans l'Union européenne.
Et si pas, c'est désobéir
aux dispositions qui nous posent problème, à commencer par les 3% de déficit. La France n'a pas respecté cette règle pendant des années. Les premiers à désobéir, en fait, n'étaient pas forcément les partis politiques de gauche, d'ailleurs.
J'ai vu que votre mère, Catherine Poggio-Bri, figure aussi sur la liste à la 59e place. Vous faites de la politique en famille ?
On ne fait pas de la politique en famille. Ma mère a été une militante
de la première heure de la France Insoumise.
De la première heure, et pour tout vous dire, elle n'a pas du tout cherché à m'influencer. On a même très peu parlé. Moi, je respecte le choix et l'engagement de ma mère qui a été en politique pendant des années, mais c'est pas du tout elle qui m'a influencée. Et d'ailleurs, elle n'est pas en position éligible.
Manon Aubry est notre invitée. Belle journée à vous.
Merci.
Merci Léa. À tout à l'heure.